France Musique.
Bonjour, bonjour à tous, vous écoutez Guitare, Guitare, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 13h pour célébrer les musiques de la grande famille des cordes pincées. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir dans nos studios la guitariste Valérie Duchâteau. Depuis le début de sa carrière, elle a sorti 14 CD, publié quantité de partitions, d'arrangements, de transcriptions, et avec un répertoire qui va de Django Reinhardt à Barbara, de Rodrigo à Leonard Bernstein. Elle propose à son public de nombreux concerts chaque année. Elle est également directrice de la rédaction du magazine Guitare Classique, un magazine partenaire de notre émission et dont le 100e numéro vient de paraître. Alors 100 numéros, ça se fête. On parlera donc de tout ça avec elle en deuxième partie d'émission. Et elle jouera pour nous une surprise, comme c'est de coutume dans Guitare Guitare. Pour ce 100e numéro, le magazine a ouvert ses archives et on y trouve notamment des portraits de grands guitaristes qui ont marqué l'histoire de la revue et de ses lecteurs. Un musicien qui a réellement changé le cours des choses, Julian Bream, qui avait, on le sait, une passion pour la musique de son temps avec la création de toutes ses œuvres de l'école anglaise du XXe siècle. Benjamin Britten en tête de file, mais également Lennox Berkeley, William Walton, Richard Rodney Bennett, Michael Tippett et j'en oublie. Il avait également une passion pour le répertoire de luth, en particulier le répertoire élisabétain. Et il adorait aussi jouer ce genre de petites pépites, comme cette étude brillante de Francisco Tárrega, très violonistique, ou le rondo opus 2 d'Aguado, ou encore les pièces emblématiques d'Albéniz ou de Granados. Bream incarnait l'instrument de manière simple et sincère. Et en même temps, grâce à son génie musical, il savait nous faire découvrir les pièces les plus difficiles. Il suscitait toujours notre curiosité et notre intérêt. On avait envie de le suivre partout où il allait.
Thank you.
Un autre grand guitariste dont vous pourrez trouver le portrait dans le numéro 100 du magazine Guitare Classique, Narciso Yepes. On apprend dans ses colonnes, grâce à la plume de Raphaël Andia, que Yepes considérait qu'il y avait majoritairement deux grandes écoles de guitare, celle de Segovia et la sienne. Et nous écoutions à l'instant la chanson catalane El Noi de la Mare, arrangée par Segovia et jouée par Yepes. Alors pourquoi toujours opposer les choses alors qu'elles fonctionnent si bien main dans la main? D'ailleurs, cette vision des deux écoles était peut-être un peu réductrice, car il en existait beaucoup d'autres, par exemple celle d'Emilio Pujol. Alberto Ponce, la saudade 3 d'un de ses élèves parmi les plus célèbres et qui, en plus d'avoir été un instrumentiste de premier plan, est devenu un des compositeurs les plus joués du répertoire de la guitare, Roland Diens. Alberto Ponce était lui-même l'élève d'Emilio Pujol et cette branche-là de la guitare a également marqué des générations de musiciens et de mélomanes, aficionados ou pas. Il a été un immense pédagogue, a largement diffusé les méthodes de son maître, il a enseigné dans beaucoup d'établissements et après avoir rencontré Alfred Cortot, il a créé la classe de guitare à l'École normale de musique de Paris. Et pendant ce temps-là, au Conservatoire national supérieur de Paris, c'est Alexandre Lagoya qui s'occupait de créer une première classe consacrée à la cicorde. Le duo Presti Lagoya pour accueillir notre invité du jour. Bonjour Valérie Duchâteau.
Bonjour Sébastien et bonjour l'équipe de Guitare Guitare.
Alors, on écoutait Alexandre Lagoya, je crois qu'il a été quelqu'un de très important dans votre carrière. Quel genre de relation vous aviez ?
Alexandre Lagoya a été un de mes tout premiers professeurs, je dis un de mes tout premiers, puisque avant c'était Henri Iglesias, puis succédé donc à Alexandre Lagoya, j'avais donc l'âge de 11 ans. Et j'ai été son élève durant 12 années.
Et c'était quel genre de professeur, Alexandre Lagoya ?
C'était quelqu'un qui aimait la transmission, qui aimait enseigner. Il avait beaucoup, beaucoup d'élèves. Je l'ai connu tout d'abord à 11 ans, je l'ai connu à Nice, à l'Académie internationale d'été de Nice. Il y avait à l'époque peu de stages, et il y avait donc une soixantaine d'élèves qui attendait pour être éventuellement élève du maître.
Oui.
Alors il y avait une audition, et moi j'étais la seule petite fille au milieu d'adultes, de professeurs, et les autres avaient tous des étuis en dur, et moi j'avais une petite housse souple. Je trouvais qu'il y avait une grosse différence, et à ce moment-là, il m'a vu quand il est arrivé pour auditionner tous ses élèves et il a vu la petite fille que j'étais. Il est venu tout de suite pour me rassurer, pour m'expliquer ce qui allait se passer, que j'allais auditionner, chacun allait passer, tout ça. Et puis, à l'issue de cette audition qui a duré quand même plusieurs heures, eh bien, j'étais reçue parmi les 12 élèves. Et donc, c'est là où a commencé travail avec Alexandre Lagoya qui a duré donc ces 12 années.
On vous reçoit notamment parce que le magazine Guitare Classique existe donc maintenant depuis 23 ans, sans numéro. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment l'aventure a commencé ?
Alors oui, l'aventure a commencé fin 99 avec Jean-Marie Raymond, qui est à l'origine de Guitare Classique avec Monsieur Frébourg à l'époque. C'était un groupe de magazines de guitare. Il y avait Guitare Part. Ils ont commencé une aventure sur la guitare classique. Et puis nous, je dis nous parce que d'un autre côté, j'ai créé aussi un magazine de guitare classique il y a quelques années qui s'appelait Guitariste Acoustique Classique. Oui. Et à un moment donné, on a eu la possibilité d'avoir Guitare Classique dans notre groupe. Et donc, nous avons fusionné ces deux entités. Et donc, ça fait maintenant 12 ans que je suis directrice de la rédaction pour Guitare Classique avec notre rédacteur en chef, Florent Passamonti.
Et alors, à part les portraits des grandes figures de la guitare que j'évoquais au début de l'émission, qu'est-ce qu'on trouve dans ce magazine ? Quel en est le contenu ?
Alors, le contenu, évidemment, comme vous venez de le dire, ce sont les grands noms qui ont fait l'histoire, une partie de l'histoire de la guitare. Il y a également Monsieur Bernard Maillot, qui est le président des Cordes Savaresse, qui est la grande marque française. Il y a quelques grands luthiers, ils ne sont pas tous là, mais nous avons Daniel Friedrich, Ignacio Fleta, par exemple, et puis Raphaël Andia, qui a beaucoup collaboré dans notre magazine, qui nous a fait une masterclass extraordinaire sur l'art du rasguado, qui est une technique typique de la guitare. Et puis, nous avons à chaque fois de la pédagogie pour illustrer l'interview.
Ces propositions de partition, elles ont un double rôle pédagogique. Elles visent les étudiants, mais elles visent aussi les aficionados, les amateurs, qui forment vraiment le tissu en fait, de notre public. Et ça, c'est important de le fédérer. J'imagine que c'est un des buts.
Exactement, parce qu'en fait, on est le public essentiel de notre lectorat. Ce sont des personnes qui ont pratiqué la guitare étant jeunes, qui ont ensuite eu un parcours professionnel qui n'avait rien à voir avec la musique et qui, à un moment donné, désirent reprendre. Donc, ils sont assez autonomes pour travailler seule avec une revue comme la nôtre. Et c'est pour cela qu'on a besoin de répondre à ceux qui savent très bien lire la musique comme moins la lire.
Oui. Alors maintenant que les supports numériques sont si présents et si efficaces, comment un magazine tire son épingle du jeu? Quel est l'atout principal finalement du magazine papier?
Alors on est obligé d'être... nous sommes aussi également sur le digital. Oui. C'est-à-dire nous avons un lectorat d'une certaine génération qui a besoin encore d'avoir du papier, qui a aussi besoin d'avoir un CD. Nous avons aussi un lectorat qui n'a pas besoin de CD ni de papier, et qui travaille sur le digital. Donc nous avons encore la chance d'avoir un lectorat qui a besoin du papier. Mais de plus en plus, le digital se développe. Mais je dirais que ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour rentabiliser le travail. Parce que c'est le même travail, hein, en fait, pour le digital, sauf que ça rapporte beaucoup moins.
Alors, vous êtes venu avec votre guitare, on va vous écouter, qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors, je vous propose une très belle page de musique qui a été composée par Ariel Ramirez, qui a rendu hommage à une grande dame d'Argentine qui était poétesse et qui s'appelait Alfonsine. Et j'adore cette page de musique parce que tout d'abord, elle raconte la vie d'une femme, qui, par désespoir de n'avoir jamais trouver l'amour, s'est laissé mourir dans la mer, en face de Buenos Aires. Et c'est très, très émouvant parce que depuis, en Argentine, tous les intellectuels n'ont de cesse que de lui rendre hommage. Et Ariel Ramirez a réalisé une page de musique qui est un véritable chef-d'œuvre. Donc je vais vous jouer, si vous voulez bien, Sébastien, Alfonsina y el Mar, que j'enchaînerai avec La Peregrinación, pour finir sur une note de gaieté.
Valérie Duchâteau, on vous écoute. Thank you. Alfonsina et Elmar, Valérie Duchâteau, un grand merci d'être venue dans nos studios. Alors, où est-ce qu'on pourra vous entendre bientôt en concert et quels sont les projets sur le feu ?
Alors, projet sur le feu, un projet qui me tient à cœur, dont j'ai envie de parler, parce qu'on là aussi, je vais jouer justement Alfonsine. C'est autour de la guitare classique qui a été créée par Jean-Félix Lalanne, qui va réunir le mercredi 22 juin à Clichy une belle brochette de guitaristes classiques. Donc, je vais citer Thibaut Covin par exemple, Thibaut Garcia, Emmanuel Rosfelder, Jérémy Jouve, la jeune Cassie Martin qui a été révélation de notre magazine, révélation guitare classique concours international Roland Diens, Jean-Félix Lalanne et moi-même. Ça, c'est la première étape fin juin. Ensuite, début juillet, je m'occupe d'un festival qui est le Festival international de guitare de Lambesque, qui aura lieu du 5 au 9 juillet, où j'ai invité le duo Delia, un duo magnifique de jeunes filles, Rafaela Smith, Samuelito, Thibaut Covin encore une fois, et les guitares improvisibles, c'est-à-dire Antoine Tati chez moi-même, pour la sortie de notre disque consacré à Marcel Dadi.
Et bien sûr, on vous retrouve sur le numéro 100 du magazine Guitare Classique, en vente dans les marchands de journaux. Et merci beaucoup à vous tous d'être à l'écoute de cette émission que j'ai réalisée en compagnie de Patrick Lérissé, Annie Comier, Fabien Capel à la technique. On s'écrit quand vous voulez sur le site de France Musique pour échanger nos idées. Et n'hésitez pas à visiter l'appli Radio France pour éplucher tous nos podcasts.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
À 13h sur France Musique, je vous laisse en compagnie de Thierry Jousse.
À réécouter sur francemusique.fr.